ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, avec Florence Boccoli, merci d'être venue à Radio Présente, mais vous venez de temps en temps parce que vous faites partie des pasteurs qui font l'homélie du dimanche à Radio Présence.
Oui, c'est l'émission Prédication protestante qui est diffusée le dimanche après-midi à 17h.
Je ne vous ai pas présenté, vous êtes pasteur de l'Union des Églises évangéliques libres de France, mais en poste à Toulouse depuis à peu près 6 ans, 6 ans et demi.
C'est ça.
Et c'est la communauté ou l'Union des Églises qui vous envoie, mais vous êtes accepté par la communauté. C'est un peu différent entre les catholiques et les courants protestants. Cette nuance, vous nous l'a dit déjà d'emblée, mais nous avons, vous allez nous parler de votre foi et de vos convictions.
Oui.
Donc la communauté vous a accepté.
Et oui. Alors ça dépend des protestants. Vous savez, dès qu'on parle du vécu protestant, il y a tout et son contraire qui existe. Il se trouve que dans mon mouvement d'église, donc notre union est constituée d'environ 45-50 communautés et à peu près le même nombre de pasteurs. Donc c'est une petite communauté, nous sommes environ 4000 personnes en France. Et chez nous, le pasteur est proposé à la communauté qui ensuite vote lors d'une assemblée générale, puisque nous sommes constitués en association cultuelle. Donc c'est la communauté qui vote pour savoir si elle accepte ce pasteur-là. Et en moyenne, chez nous, un pasteur reste une dizaine d'années dans une communauté.
Un pasteur ou une femme pasteur, il n'y a pas de problème de genre chez vous. Mais
si.
Depuis...
Si, si, ah, si bien bon. Sûr. Je suis une des premières de mon union d'église.
Félicitations.
Puisque chez nous, c'est possible depuis le printemps 2003. Voilà, oui. Ça a été voté en 2003. Et c'est en fait le sujet des femmes pasteurs est un sujet qui divise énormément aujourd'hui dans le monde évangélique, français, anglophone, voilà, un peu partout.
Alors, le monde évangélique, il est assez peu connu, à part peut-être de quelques sociologues, parce que en fait, on confond l'évangéliste, et puis vous êtes en fait en fonction à temps plein dans cette communauté d'église. Mais ce courant protestant de la réforme, c'est pas forcément des luthériens et des calvinistes, c'est ça? Il y a déjà, donc dès le début de la réforme, une certaine tension avec les anabaptistes.
En fait, ce qu'il faut, pour simplifier un petit peu quelque chose qui n'est pas si simple, au XVIe siècle, Luther, puis Calvin, et évidemment ceux qui les suivent, se séparent du catholicisme et pose les fondements de ce qu'on appellera ensuite la réforme. Les évangéliques, comme le disait notre prof d'histoire à la fac, c'est tout simplement les réformes de la réforme. Donc c'est des mouvements en général qui vont un peu plus loin sur tel sujet ou qui viennent remettre en question certains points que l'on trouve dans la réforme protestante. Donc il y a eu tout de suite au XVIe siècle des mouvements qu'on appelle aujourd'hui de la réforme radicale, c'est-à-dire qu'ils ont tiré des conclusions sur le vécu d'Église, des conclusions par rapport aux doctrines énoncées par Luther et Calvin. Alors l'exemple type, c'est le baptême, puisque Luther et Calvin ont continué à baptiser les enfants, par exemple, alors que ces réformés radicaux ont dit, ce qui est important, c'est la relation personnelle avec le Christ, le baptême doit être un signe de cet engagement personnel, et donc nous ne baptiserons que des personnes qui sont capables de professer personnellement de leur foi, et donc on attendra qu'ils aient au moins l'âge de raison.
Alors, tout de suite, s'il vous plaît, avant que tout le monde ne ferme le poste, nous parlons en fait de chrétiens qui pensent que Jésus est mort pour eux et que Jésus est Dieu.
Oui, bien sûr.
Avons ici à cette antenne interrogé des libres penseurs ou bien des personnes, des musulmans ou des juifs pour qui cela ne veut pas dire grand-chose. Mais je crois qu'il y a quatre piliers fondamentaux chez vous.
Alors oui.
C'est bien de le préciser.
Oui, bien sûr. Pour présenter un peu mieux les évangéliques. Oui. Alors les évangéliques, on est un courant du protestantisme qui est lui-même un courant du christianisme. Et on a en commun avec tous les chrétiens, on va dire, le symbole des apôtres.
De Nicée, Constantinople.
Oui.
Je crois en un seul Dieu.
Oui, tout à fait.
Père, Fils, Esprit. Et à l'Église universelle. Non, c'est bien que je crois de le dire
maintenant. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je suis entièrement d'accord.
Au-delà de nos petites différences.
Oui, bien sûr. Oui, c'est pour ça que je voulais mettre ça en avant.
Et donc l'importance de la croix aussi.
Et alors, les particularités du mouvement évangélique, en général, on met en avant 4 points. La centralité de la croix comme sacrifice, comme lieu de sacrifice expiatoire. Donc Jésus est mort pour nous, pour nos péchés. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ce serait l'attachement à la Bible comme parole de Dieu inspirant des paroles humaines. Donc, on pense que ce sont des êtres humains qui ont écrit la Bible, qui ont réfléchi, mais qu'ils étaient guidés par Dieu pour que ce soit des paroles qui sont assumées en quelque sorte par Dieu et qui nous parlent encore aujourd'hui.
Dieu me parle aujourd'hui.
Voilà. Donc l'attachement à la Bible comme parole de Dieu, l'importance du témoignage personnel de la foi, et puis l'engagement de l'importance de la relation personnelle avec Jésus. Donc d'où le rapport notamment avec le baptême, où souvent on a besoin de demander au baptisé de dire sa foi à lui. Voilà.
Alors, puisque vous parlez d'engagement personnel et de conviction, vous êtes marié, vous êtes passé par l'université et l'université n'a pas remis en doute ce qui vous avait été transmis dans votre famille, dès votre petite enfance.
Oui, tout à fait.
Naissance dans une famille protestante.
Semi-chrétienne.
Semi-chrétienne, semi-pratiquante, d'accord.
Alors, pas pratiquante à l'époque, mais...
Nul n'est parfait.
Voilà. Donc, oui, je suis née dans une famille où les femmes étaient croyantes, protestante, réformée.
Votre grand-mère, votre maman,
voilà.
Les femmes.
Voilà. Et puis les hommes, non. Moi, je suis fille unique. Et j'ai toujours cru en Dieu, sauf que nous n'allions pas à l'église. Voilà, ça, c'était le parcours de ma famille. Et puis, à 9 ans, j'ai décidé d'aller avec ma grand-mère à l'église. Je me suis trouvée bien dans cette église-là. À 18 ans, j'ai reçu le baptême. Et puis ensuite, je suis partie pour être prof de français. Donc, j'ai fait des études en lettres classiques, j'ai fait pas mal de philo, etc. Et effectivement, ça a renforcé ma foi.
Nietzsche, Marx, cagne, hypocagne et des études qui renforcent donc votre recherche d'une certaine vérité ou d'une révélation.
Plutôt le fait que... je pense que dans... L'être humain a des tas de questions qui sont universelles, enfin on se retrouve... Et il me semble qu'il n'y a que la Bible qui réponde de la meilleure façon. J'ai eu l'impression, en lisant les philosophes, qu'on se posait les bonnes questions et qu'on apportait des réponses un peu partielles, qui étaient intelligentes, mais qui pour moi manquaient un peu de sens. Et ce n'est qu'en revenant sans cesse à la Bible que je voyais que Dieu répondait en fait à ces questions, ces questions existentielles, épistémologiques, etc. Voilà.
Bon, il y a des tas de gens qui pensent qu'il y a du sacré, qu'il y a une transcendance, sans forcément que ça les emmène à Jésus.
Oui.
Jésus vous a parlé pour vous appeler
non.
à un ministère.
Je ne sais pas si Pardon. Jésus m'a parlé. Non.
Si on dit Jésus me sauve.
Oui.
C'est une conviction, c'est
ah
une
oui,
croyance.
Ah oui, je suis entièrement d'accord. Oui. Non, j'ai jamais eu de moment où j'ai eu l'impression que Jésus me parlait. C'est pour ça que
pas de vocation à un ministère, et pourtant vous êtes femme pasteur.
Mais je me sens appelée à mon ministère. C'est juste que Dieu m'a pas appelée au téléphone, quoi. Hein, voilà.
Il faut interpréter les signes.
C'est ça, voilà. Non, j'ai senti un appel dans le contexte d'un manque de pasteur dans mon union d'église, et puis j'ai eu le désir de répondre. Alors au début, je ne me sentais pas du tout capable. Et puis, en étant accompagnée par d'autres, par mon pasteur, par ma famille, etc., j'ai pu envisager de suivre cette voie-là.
La lecture de la Bible qui aide également ?
Qui aide quoi ?
À approfondir sa foi et cet appel.
Ah oui, pardon, oui. Oui, alors pour mon appel, la lecture de la Bible n'a pas trop joué de rôle. C'était plutôt le discernement de mes dons et puis de mon utilité dans l'Église. Après, la lecture de la Bible, oui, elle est fondamentale pour comprendre qui est Dieu, comprendre qui je suis et puis à quoi il m'appelle. Oui, bien sûr.
Mais vous avez une formation de théologienne.
Oui, alors après mes 4 ans de lettres, je suis partie faire un master de théologie à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine en région parisienne. Il faut savoir que dans le milieu évangélique, il n'y a que 2 facultés. Une faculté en région parisienne et une autre à Aix.
Et là, vous apprenez à la fois donc, les principes de la théologie, mais peut-être les formes de rites qui sont peut-être différentes.
Alors, on n'a pas vraiment de rites chez les évangéliques.
Mais pourtant, on chante que Dieu est bon. Et vous avez apporté un chant, mais qui n'est peut-être pas un chant liturgique. Vous nous dites, c'est de Tracy Sherman, et vous l'aimez beaucoup.
Oui, voilà, c'est pas une chanteuse. Non, c'est une chanteuse de pop américaine et qui dit sa foi de façon très simple et très acceptable, très audible en fait dans la société actuelle.
Avec alors nous l'écoutons.
Oui.
1, 2, 3, 4. Jesus loves me. In my heart, I know it's true. I know Mary's little baby came into the world just to save me. I don't know about you. My God's a mighty big God. My God can shake the world up. Plagues and famines, frogs and locusts, walking on water, burning bushes, rolling the thunder, parting the waters too. My God's good in the kitchen. Make a good meal from bread and fishes. Feed the hungry, pour the wine. Everybody's welcome to have a good time. Sit at his table. Enjoy the food. I know Jesus loves me. He says I should love you. My neighbor, not his wife. Don't covet, steal, kill or lie. My God's got a lot of rules.
J'y crois, avec Benoît Petit.
Et Florence Vankouali, vous êtes pasteur de l'Union des Églises Évangéliques Libres de France, mais en poste à Toulouse. Et vous nous avez présenté un chant que vous aimez beaucoup, qui n'est pas un chant liturgique, en tout cas dans les
liturgies. Pas encore.
Ah. Les charismatiques, pourtant vous êtes passé. D'abord, dites-nous en 2 mots... Parce que ceux qui ne sont pas anglophones n'ont pas forcément
saisi. C'est un chant qui est tout simple hein, et puis qui dit avec un petit peu d'humour et beaucoup de joie. Je sais que Jésus m'aime et puis je sais que c'est vrai dans mon cœur. Il est venu dans le monde pour me sauver et mon Dieu est un grand Dieu très puissant. Voilà, ça dit bien la sensibilité évangélique qui aime citer Dieu, qui aime mettre l'accent sur la relation avec Jésus d'abord, qui a aussi une confiance forte dans la puissance de Dieu.
Et vous êtes passée par le chemin neuf quand vous étiez étudiante?
Oui, voilà, quand j'étais étudiante en lettres, j'avais un ami qui était au chemin neuf. Et la messe étant à 19h pour les étudiants, c'était quand même très pratique. Et ça m'a fait du bien de voir que même dans des formes qui sont vraiment différentes de mes habitudes, c'est la même foi, voilà. De foi un peu différente, mais l'œcuménisme fait partie des lieux importants de ressourcement pour moi et d'ouverture Je pense que c'est un des lieux où Dieu me travaille de manière particulière.
Et c'est aussi un des points centraux de vos communautés, le témoignage qui n'est pas du prosélytisme.
Alors voilà, on essaie de trouver la juste place. Voilà,
bon équilibre.
Voilà, dans un contexte de laïcité qu'on connaît en France. Comment témoigner de sa foi avec joie, avec conviction, sans se cacher, sans avoir honte et sans se dire qu'on est dans un vieux truc obscurantiste, mais en même temps, en respectant les convictions des autres, en étant bienveillant, en étant dans le dialogue et le respect. Bon, j'ai pas la solution, mais on travaille là-dessus.
Le sacré des autres, vous ne vous en moquez pas. C'est cela un peu la tolérance, ou en tout cas le fait de comprendre à son juste niveau la laïcité française. Même si je n'y crois pas,
oui,
aux convictions des autres, je n'ai pas à m'en moquer. Alors, voilà, l'humour, là, donne...
Ça dépend, moi j'ai un tempérament moqueur, mais pour tout, donc voilà. Mais en tout cas, je ne me moque pas des personnes et de leur recherche de sens ou de Dieu. Et je crois que Dieu ne se moque pas d'elles non plus. Je crois que on a tous le même Dieu, qu'on le connaisse bien ou pas, que c'est le même Dieu et qui nous appelle tous à venir à lui. Hein, donc voilà.
Et vous avez fait un master ou une étude sur Marie?
Oui, alors ça c'est quand j'étais en lettres, mon prof de lettres de latin tardif, qui était donc qui travaillait à l'Institut catholique et aux sources chrétiennes du CERF, était un petit peu taquin. Il m'a dit: ah, vous êtes protestante, bon, je vais vous donner un petit texte de Saint Jérôme à traduire et à commenter.
Saint Jérôme, c'est le 5e siècle?
Oui, c'est ça.
Et qui traduit directement du grec, alors, et de l'hébreu?
Oui, alors oui.
Ou de la Vulgate, enfin de...
Alors, le travail de traduction de Saint Jérôme pour la Bible, qui a donné lieu à la Vulgate, hein, cette version qui a été utilisée dans le monde chrétien pendant plus d'un millénaire, c'est à partir de l'hébreu pour l'Ancien ou le Premier Testament, et à partir d'un certain nombre de petites traductions latines pour le Nouveau Testament. Mais moi, je n'ai pas travaillé sur ça. J'ai travaillé sur une réponse de Saint Jérôme à un théologien de son époque, qui disait que Marie avait eu des enfants après Jésus. Et Saint Jérôme de dire: pas du tout, c'est un scandale de dire ce genre de choses. Et alors il donne une réponse d'une quarantaine de pages, enflammée, extrêmement bien écrite, très bien pensée théologiquement, avec des appuis bibliques, très intéressants. Et donc moi j'ai juste traduit du latin au français ce petit texte.
C'est l'interprétation de Saint Luc, mais il n'y a rien dans l'évangile qui nous dirait que... on peut prouver ou ne pas prouver ceci ou cela.
Mais c'est méconnaître les
sourire.
Capacités linguistiques de Saint Jérôme, qui fait une très très intéressante analyse de la préposition jusqu'à. Voilà, jusqu'à l'accouchement de Jésus.
Alors vous nous ramenez un peu quand même aussi à Dei Verbum dans le Concile, parce que l'interprétation des Écritures,
ouais,
Dieu
ouais.
me parle, mais jusqu'où? Est-ce qu'il faut resituer dans le contexte les lectures historico-critiques ou alors les lectures au premier degré? Quand on dit la Bible, parole de Dieu, alors...
Oui, bien sûr. Je pense qu'on n'est pas obligé de choisir l'un ou l'autre, hein. C'est plus large comme position, il y a un éventail. Il me semble que la Bible a été écrite par des humains, donc il faut prendre en compte leur contexte, leur langage, leur contexte culturel, historique, etc. Donc là, je suis entièrement pour.
Vous seriez d'accord avec, je crois, le grand bibliste Alain Marchadour, rester humble et en même temps pas d'anathème envers les autres. Et dans notre radio ici, catholique, je crois que le dialogue est fondamental avec vous et avec d'autres. Sur nos convictions, sur nos croyances. Parce que un des troisièmes points que vous ne nous avez pas dit dans votre communauté, c'est la profession personnelle de la foi.
Oui. Mais c'est-à-dire que l'accent qu'on met dans les milieux évangéliques, ce n'est pas juste chez moi, hein, c'est dans 99% des milieux évangéliques, en France et ailleurs. On met l'accent sur l'engagement personnel à la suite de Jésus pour être membre à part entière de la communauté. Voilà. Donc on a beaucoup de témoignages et voilà.
Des confessions, mais devant tout le monde, pas le
non,
pardon
c'est pas une
des
confession.
Péchés.
Oui, non, ça n'a rien à voir avec ça.
C'est ça,
une
le double
profession de
sens
foi.
Du mot confession.
Oui,
c'est pour
bien
ça
sûr.
Que je l'apporte ici.
Oui.
Hein, le témoignage et l'engagement personnel qui passe pas forcément par des rites.
Non, bah on invente en fait nos propres rites. Hein. On a tous des rites, forcément. Dès qu'il y a une culture, il y a des rites, des habitudes, des traditions. Mais disons que chez nous, dans nos mouvements d'église, c'est variable. Et puis, c'est la communauté locale qui a ses habitudes. Mais il n'y a rien de... qui vient... Enfin, il n'y a rien. Voilà, c'est... Il n'y a rien de très important. Enfin,
mais la Sainte Cène, vous n'utiliseriez pas peut-être cette expression? Ou alors la présence réelle de Jésus dans le pain consacré?
Oui, alors ça ne fait pas partie de nos convictions, effectivement, de la présence réelle. Non.
Mais Dieu est présent quand deux ou trois sont réunis en son
oui,
nom.
Oui, parce qu'il est présent dans notre... Alors, il est présent dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et puis, il est présent, je crois, d'une manière particulière quand on se réunit en communauté, voilà.
Et dans les couples mixtes?
Oui.
Ben, c'est possible d'être... D'ailleurs, je lis un document que beaucoup de catholiques comprendront dans le Kesako, hein, de Soif de toi, et c'était il n'y a pas longtemps, c'était je crois dans le courant de janvier. Année catholique, Bruno est protestant. En famille, ils vivent simultanément les deux confessions. Et il témoigne appartenir à la grande famille des chrétiens.
Oui.
Pourtant, il n'y a pas de sacrement du mariage. C'est une bénédiction nuptiale chez vous?
Oui, oui, oui.
Le couple s'engage, les deux conjoints s'engagent devant Dieu, avec des témoins.
Oui.
Et ils sont bénis et oui. Ils se promettent fidélité.
Oui, c'est ça. Oui, bien sûr.
Mais l'homme est faible et Dieu est miséricordieux.
Oui.
Ils peuvent se remarier.
Alors ça dépend des milieux évangéliques. Pour certains évangéliques, le divorce est impossible. C'est très très variable. Voilà.
Nous sommes en présence de questions qui sont fondamentales. Ce sont des questions de société au moment où notre société ne porte plus ce souci de la fidélité, de la continuité
et
de la transmission aux enfants,
oui.
Qui est aussi un point fondamental de nos question aujourd'hui. Alors, vous avez aussi comme engagement une transformation de la société?
Alors, je suis plus modeste. Hein. Je suis plus modeste. Je ne sais pas trop ce que Dieu a comme projet par rapport à notre société, mais en tout cas, mon désir que je ne... réussit pas vraiment à réaliser. Mon objectif, ce serait d'être témoin et puis de le servir là où il veut et comme il le veut.
Servir les hommes, servir...
Servir Dieu et servir les hommes, ouais.
Oui, mais vous nous avez apporté, ça sera sur le site,
oui.
Des arbres. Parce que votre sensibilité vers la nature, c'est ce qui vous a fait revenir, je crois, une fois, un moment où, même comme pasteur, vous étiez dans le brouillard.
C'est ça. Voilà, il arrive qu'on ait des doutes, hein. Ça arrive à beaucoup de chrétiens, sinon à tous.
Thérèse de l'Enfant Jésus, entre autres,
oui.
Et tous les grands mystiques.
Oui, tout à fait. Je souris parce que ce n'est pas nos références classiques dans le monde évangélique.
Les saints, vous préférez les prophètes, Élie et Jérémie
voilà,
dans
la lecture
de la
Bible. Personnages bibliques, oui.
Oui, mais il est aussi une question de gouvernance et d'institution des églises. Alors, prochainement, nous allons avoir un débat sur justement à l'Institut catholique sur la gouvernance. Qu'est-ce qu'on appelle la communauté avec ses rites et ses institutions? Eh bien, il y a une commission, hein, Croyance et foi, qui va organiser le samedi 7 mars une réflexion justement entre des personnes qui sont à l'université, non-croyants, et puis d'autres personnes qui sont archipels citoyens de la mairie de Toulouse, etc. Donc, c'est une question qui traverse tous les groupes d'hommes.
Oui.
Qu'est-ce qui fait sens?
Oui, c'est ça. Oui.
Et parce que bientôt, malheureusement, il faut conclure, mais vous avez apporté une prière, un psaume qui vous permet d'être à un moment donné dans la communion avec Dieu ou avec vos frères et sœurs.
Alors, nous, on a tendance à prier de manière assez spontanée, mais c'est vrai que le psaume des évangéliques qu'on cite à quasiment tous les mariages et tous les enterrements et la moitié des baptêmes, c'est le psaume 23.
Hein,
le Seigneur est mon berger.
Je ne manque de rien.
Voilà.
Sur des prés d'herbes fraîches.
Voilà, tout à fait.
Il me fait reposer.
Il me conduit au calme près de l'eau. Il me fait revivre. Il me guide sur la bonne voie car il est fidèle à lui-même. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Et face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête de l'huile parfumée. Tu remplis ma coupe et elle déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai.
Alors nous restons dans l'action de grâce et nous vous remercions beaucoup, Florence, et peut-être que nous vous demanderons de revenir. Merci aussi à Christophe qui a permis la réalisation de cet entretien.
Merci.